Bonjour frères et sœurs et bon sabbat. En 1944, le compositeur Aaron Copland a achevé un ballet intitulé Appalachian Spring. Le ballet est la voix profondément américaine d'Aaron Copland, optimiste, assuré, tendre, nostalgique, inclut l'hymne Simple Gifts. En français, c'est le cadeau. Le célèbre mélodie était une chanson préférée de la secte Shaker. Il date de l'année 1848. Le texte et la mélodie écrits par M. Joseph Brackett ont été cités aux années 1940 par Edward Andrews dans son anthologie de chansons, danses et rites des Shakers américains. Copland a présenté l'air en bonne place dans son ballet, et c'est en fait dans ce livre, cette anthologie que Copland dit qu'il a découvert cette cantique. Et donc, dans un ensemble magistral de variations, Copland a présenté l'air. En notant la mélodie pour voix, cependant, Copland a donné à la chanson une qualité de récitatif en incorporant un accompagnement placé carrément sur des temps faibles, garantissant que cette version de Simple Gifts serait chantée dans la pulsation rythmique régulière qui fait partie majeure de la musique Shaker en général. La résurrection de Copland de Simple Gifts a promu cette mélodie, autrefois au rôle premier plan d'un hymne américain. C'est le cadeau, Simple Gifts. Même le mot cadeau ici est un mot simplifié pour le mot bénédiction. Le mouvement qu'on appelle Shaker cherchait à établir une nouvelle société à la fin du 18e siècle aux États-Unis, une société basée sur des principes de simplicité. En fait, c'était un groupe monastique dans lequel les hommes et les femmes étaient censés de vivre comme frères et sœurs, et non mari femme. Donc, c'était un mouvement pacifique, un mouvement basé sur l'égalité, et un mouvement qui a reçu beaucoup de critiques au 18e et au 19e siècle aux États-Unis. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous informer que les croyances des Shakers ne sont pas du tout en ligne avec les croyances de l'Église de Dieu. Aujourd'hui, j'insiste seulement sur leur principe de simplicité, le principe de simplicité qui se trouve dans la cantique des Shakers, Simple Gifts, ou C'est le cadeau. Dans un monde qui bouge tellement vite et qui est plein de distractions, on a rarement le réflexe d'apprécier les choses simples. La technologie et la société sont de plus en plus compliquées et cela peut avoir un impact sur nous. La musique d'Aaron Copland a transmis le message de la simplicité qui était intégrale à la vie des Shakers, qui étaient en fait des personnes qui voulaient se déconnecter de leurs contemporains pour expérimenter avec un nouveau système qui, pour eux, a préfiguré le royaume sur la terre. Si l'hymne c'est le cadeau ou c'est le cadeau commence avec une mélodie simple, Copland développe rapidement la profondeur et la beauté de la simplicité ou même de cet principe simple, ce principe. Rendons-nous hommage à Dieu pour ces innombrables bénédictions que nous n'avons rien fait pour gagner. La simplicité dans notre reconnaissance envers Dieu est quelque chose que nous devrions désirer développer. En mettant de côté nos aspirations et nos désirs, nous débutons une prise de conscience de ce que nous avons déjà reçu. Dans cette nouvelle perspective, on n'insiste plus sur des aspirations à toujours obtenir plus de choses, de plus grandes choses. La voix du monde nous apprend, bien sûr, à toujours accumuler plus. Mais en mettant de côté ces choses, nous sommes capables d'apprécier nos bénédictions les plus simples. Nous sommes capables d'être encore plus reconnaissants envers Dieu de ce qu'il nous a déjà donné. Considérons le psaume 19 et le verset 7. Psaume 19, le verset 7. Psaume 19 et le verset... Plutôt le verset 8, psaume 19, verset 8. « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. » Donc, le psaume 19 met en contraste les choses qui sont assez simples en principe, mais qui sont vraiment profondes. Des choses comme la sagesse, les choses comme les ordonnances, les commandements de l'Éternel, la crainte de l'Éternel. Ce sont des choses assez simples, mais très profondes. Par contre, l'or, qui est très apprécié par les yeux des hommes, l'or est censé montrer la richesse. Et c'est quelque chose qui brille, c'est quelque chose qu'on voit qui est très beau. Mais l'or n'est pas associé avec la simplicité comme la base de Dieu, de tout ce que Dieu révèle à nous aujourd'hui et tout ce que Dieu révèle à travers sa parole. Donc, il se présente, il se révèle à nous dans sa simplicité, mais dans sa puissance également. Considérant psaume 116, psaume 116, est-ce que nous apprécions ces choses qui sont simples, mais qui sont tellement profondes? Psaume 116 et le verset 5. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. On peut considérer ce verset, ces quelques versets, une chose très simple. La justice de Dieu, la compassion de Dieu, l'Éternel qui garde les simples. Et ce qui est expliqué ici, c'est qu'une personne était malheureuse et c'est l'Éternel qui est intervenu pour lui rendre service, pour l'aider, pour le sauver. Et donc, c'est quelque chose de simple à expliquer. Mais c'est quelque chose qui est très profond, qui a un grand impact, qui a changé la vie. Quand on est sauvé, quand on est malheureux et quand quelqu'un sauve quelqu'un d'autre, ou quand l'Éternel intervient pour nous sauver, c'est quand même très, très précieux. C'est plus précieux que l'or. Considérons encore un exemple, cette fois-ci au Proverbe. Au Proverbe, chose qui parle, au verset qui parle de la simplicité qui, normalement, qui d'habitude, qui est souvent chose de qu'on oublie. Donc, on oublie simplement les choses de base, des choses simples, on les oublie et on met du valeur sur les choses qui sont tellement impressionnantes ou efficaces ou quelque chose comme de l'or. C'est ça. On met la valeur sur les choses qui ont moins de valeur que ce que l'Éternel nous donne déjà. Donc, Proverbe 15 et le verset 16. Proverbe 15 et le verset 16. « Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. » Donc, est-ce que nous sommes capables d'apprécier le peu avec la crainte de l'Éternel? Ce monde veut dire à nous non. Il ne faut pas accepter le peu. Il faut toujours pousser pour avoir plus, pour gagner plus, pour accumuler plus. Et le monde ignore les choses simples, mais les choses profondes de l'Éternel. Nous rendons grâce à l'Éternel pour le jour d'aujourd'hui, pour le moment présent, pour la vie. Nous rendons grâce à l'Éternel pour les uns et pour les autres. Nous rendons grâce à l'Éternel pour les choses qui sont simples, mais qui sont profondes. Considérons les principes mentionnés dans l'hymne « C'est le cadeau ». Il y a une traduction que j'ai trouvée par Internet que je vais vous citer aujourd'hui. C'est le cadeau d'être simple. C'est le cadeau d'être libre. C'est le cadeau de descendre où nous devons être. Et quand nous nous trouvons à la bonne place, ce sera la vallée d'amour et de délices. Quand la vraie simplicité sera obtenue, de saluer et nous courber, nous n'aurons pas honte. Tourner sera notre plaisir, jusqu'à ce qu'en tournant, nous arrivions bien. Si vous connaissez un peu sur le groupe des Shakers, ils étaient connus pour leur danse. Ils dansaient beaucoup, ils avaient beaucoup de danse dans leurs assemblées et ils ont aussi publié beaucoup d'œuvres de musique, beaucoup de pièces de musique et ils ont inventé beaucoup de danse. Donc, même en lisant cette petite cantique, cet hymne, nous avons l'impression d'une danse, on est engagé dans une danse, mais une danse assez simple. Donc, j'insiste non pas sur les doctrines des Shakers, mais j'insiste sur ce principe de simplicité et du fait que nous sommes capables de reconnaître la simplicité dans les bénédictions de Dieu. Faut-il de la répétition pour être reconnaissant envers Dieu? Oui et non. À certains moments dans la vie, certaines personnes sont naturellement dans un état de gratitude. À d'autres moments, bien sûr, cela peut prendre un peu plus de développement. Nous avons parfois de la nostalgie, ce qui n'est pas vraiment une reconnaissance parce qu'on pense à quelque chose qui est déjà passé dans le passé. Et on garde ça comme quelque chose qu'on souhaiterait revoir. Mais d'être vraiment reconnaissant pour des choses simples, ça peut demander de la répétition, de l'effort, peut-être même dans un monde comme celui que nous voyons autour de nous. C'est souhaiter ce qui était la nostalgie, mais nous ne sommes pas en train de parler de la nostalgie, nous parlons de l'idée d'être reconnaissant envers l'Éternel. Donc, ce n'est pas une méditation sur l'âge d'or ou des choses de passé, mais c'est une appréciation du présent, une appréciation de ce que Dieu nous a donné et qui nous donne et qui nous a promis également. Donc, nous devons trouver le lien entre la reconnaissance et la paix. L'un peut augmenter l'autre ou au moins donner plus d'opportunités à l'autre. Si nous sommes en paix, nous sommes plus aptes à méditer sur des choses positives, sur des choses qui nous permettent d'être reconnaissants envers Dieu. Considérons maintenant sept principes pour entamer ou pour développer, ou sept rappels plutôt, pour développer cet esprit d'avoir une reconnaissance envers Dieu. Nous avons déjà au début à établir un lien avec Dieu, une relation avec Dieu. Donc, pour le premier point, il s'agit du contact avec Dieu. Le contact avec Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par rapport au contact avec Dieu? Considérons Matthieu chapitre 6 où nous trouvons la prière modèle. Donc, nous avons ici Matthieu chapitre 6, une sorte de stratégie d'être reconnaissant, de devenir ou de développer la reconnaissance envers Dieu. Donc, Matthieu 6, et à partir du verset 7, c'est Jésus-Christ qui nous instruit sur comment prier, comment établir et maintenir le contact avec le Père Céleste, comment entrer en relation avec lui, comment accepter cette opportunité de s'approcher de lui. Donc, au verset 7, nous avons « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Est-ce que c'est simple, l'idée de répéter beaucoup de paroles, l'idée de s'exprimer beaucoup rapidement? Je dirais que ce n'est pas simple. C'est une complexité qui, d'après Jésus, n'est pas nécessaire pour avoir un contact avec Dieu. C'est un contact tout simple. Donc, les mots naturels, les mots qui viennent à l'esprit, les mots qui viennent du cœur. Donc, verset 8, « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. » Et puis, je vais m'arrêter là pour quelques instants, parce que moi, je trouve très important le fait que nous avons ce rappel que Dieu le Père s'occupe de nous déjà, même avant notre prière. Il s'occupe de nous, mais c'est notre opportunité, la prière, d'aller envers lui et de commencer à dire les choses du cœur, les choses qui nous troublent, les choses qui nous touchent, même les remerciements, même les choses pour lesquelles nous sommes vraiment reconnaissants envers Dieu. Donc, c'est en ce moment, dans ce moment intime avec la prière, que nous adressons notre prière à notre Père Céleste et nous commençons par une louange. C'est un modèle, ce n'est pas comme ça à chaque fois, on ne répète pas les mêmes paroles à chaque fois, mais on commence avec la louange pour l'Éternel. « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Donc déjà, nous avons « que ton nom soit sanctifié ». Nous nous adressons à lui, nous considérons sa grandeur, nous considérons sa puissance. Et donc, au verset 10, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donc, avant de passer à nos demandes, à ce que nous allons demander de l'Éternel, nous avons cette idée de remerciement, cette idée de commencer la prière avec une réflexion sur les choses que nous apprécions de l'Éternel. Donc, verset 11, ça change en plutôt une demande en ce moment, dans la prière modèle, mais considérant la simplicité de cette demande, la simplicité. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Donc nous revenons encore une fois à l'appréciation de choses simples, mais de choses très profondes. Ce sont des vérités établies, mais le fait de méditer ces vérités, ces choses merveilleuses, nous remplit d'un esprit de remerciement. Nous rendons grâce à l'Éternel. Et puis, nous avons le « Amen » à la fin de la prière. Au verset 14, Jésus continue, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. » Donc, nos demandes dans la prière, bien sûr, nous sommes en train de demander, nous sommes en train d'apprécier, de remercier Dieu, mais nous avons, après la prière aussi, l'idée de vivre la parole de Dieu, l'idée de vivre par rapport à sa volonté. Donc, verset 15, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Donc, une chose très ancienne, une chose essentielle ici, demander dans la prière modèle, c'est le pardon. Mais il faut aussi considérer ce que Jésus dit après, très important. Il souligne que si nous allons demander d'être pardonnés, nous devons mettre en pratique ce principe dans nos vies aussi. Donc, en passant, je voulais juste souligner la simplicité de ce qu'on demande à Dieu qui va avec la simplicité de ce que nous reconnaissons comme nos bénédictions. Nous demandons des choses simples à Dieu et nous demandons qu'il nous aide, bien sûr, mais nous apprécions des choses très simples. Ça demande une perspective à méditer les choses simples, à méditer les choses que Dieu nous donne, qu'il nous offre. Et donc, Jésus-Christ, dans Jean 17, même a remercié le Père. Il a reconnu le rôle du Père et la mission qu'il a confiée aussi. Considérons Psaume 16. Psaume 16 et le verset 7. Si nous établissons ce contact avec Dieu, c'est bien pour avoir un esprit ouvert à son instruction. Nous sommes ouverts à la correction, à l'exhortation de sa parole et aussi nous sommes reconnaissants que c'est lui qui agit pour nous. Donc, le psaume 16 et le verset 7. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Donc, encore une fois, nous reconnaissons des choses à venir aussi, des promesses, des choses qui sont, si vous voulez, plus loin sur cette route, sur le sentier de la vie, des choses qui sont plutôt vers la fin de ce sentier, la destination plutôt. Nous apprécions pas seulement le présent, pas seulement le passé, mais aussi la destination, le but ultime, et nous apprécions le fait que c'est Dieu qui nous a ouvert les yeux pour comprendre ces vérités. Donc, nous avons, pour rentrer en contact avec l'Éternel, nous avons bien la prière, mais nous avons aussi le jeûne. Le jeûne peut être un moment de force, de renforcement spirituel en raison de cette déconnexion de toute complexité de la vie quotidienne. C'est ça que les Shakers voulaient faire. Ils voulaient se déconnecter de leur village à eux, de leur ville, de cette société qui les entourait. Et ils ont établi des villages tout construits, des villages qu'ils avaient établis pour ce mouvement. Et ils sont sortis du monde pour se rejoindre dans ces endroits. Donc, les préoccupations changent, les réflexions, les méditations ne sont plus sur la même chose quand on fait un changement, quand on jeûne, quand on enlève le pain quotidien, quand on enlève notre manger, notre boire. Ça nous fait concentrer encore plus sur notre existence temporaire et aussi sur la puissance, la magnificence de Dieu. Donc, c'est pour ça que il ne faut pas simplement attendre une fois par an pour jeûner, mais c'est une pratique à prendre, à considérer pour ses renforcements spirituels également. Continuons maintenant avec un deuxième principe, l'adhésion à sa voix. Nous sommes adhérés, nous sommes attachés à sa voix. Quelle est la voix de Dieu? Quelle est la voix de Dieu? Souvent, nous considérons le mot « la foi ». Donc, bien sûr, nous avons une définition de la foi dans Hébreux 11 et le verset 1. Mais aussi, nous avons une idée plus d'une définition, nous avons quelque chose d'autre pour décrire notre foi, notre voix, la voix de Dieu, la voix auquel nous sommes adhérés. Donc, nous sommes attachés à cette voix, nous suivons cette voix, et c'est très important de suivre cette voix. Donc, Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, c'est un principe très simple, mais très profond. Nous sommes dans la perspective, nous sommes de la perspective que ce que nous faisons, c'est avancer dans la voie que Dieu met devant nous. Et c'est par la foi que nous avançons. Donc, Éphésiens 4, maintenant le verset 4. « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » La raison pour laquelle j'ai choisi ce passage, c'est parce que nous avons l'impression d'être amenés tous dans une même direction, envers l'unité de l'esprit, l'unité avec nos frères et sœurs. Donc, un seul corps, un seul esprit, et ça continue, une seule espérance par votre vocation. Nous sommes quand même d'une seule foi, d'un seul esprit. Et Christ explique un peu ce principe dans ses paroles dans l'Évangile de Jean, chapitre 14. Il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, dans la même façon qu'il annonce en Jean 6, 44, cette idée que c'est le Père qui attire, nous avons également un rappel ici dans Jean 14, verset 6, que « Nul ne vient au Père que par lui », que c'est un cheminement envers le Père, envers, comme Paul l'a déjà décrit, la perfection. C'est notre cheminement, c'est de progresser, de continuer d'avancer vers la perfection. Donc, Jean 6, 44, c'est « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire ». Et notre but ultime, c'est même mentionné ici, je le ressusciterai au dernier jour. Donc, nous avons un processus en cours. Nous avons un engagement aussi à suivre ses pas. Il est important à noter ici, nul peut venir à moi. Ça veut dire que nous sommes obligés de nous déconnecter de notre point de départ et de mettre notre foi en lui, de s'approcher de lui. Aux Actes chapitre 9 et le verset 2, nous avons juste un verset qui souligne le fait que ces personnes qui faisaient partie de l'Église du Nouveau Testament étaient considérées comme des personnes, des partisans, il est indiqué ici, des personnes qui sont parties de quelque part pour se regrouper, pour s'assembler, cette ecclésia, et ils s'assemblaient sous la nouvelle doctrine, sous cette voie. Même en anglais, ça indique plutôt la voie. Ils étaient appelés la voie, cette doctrine. Mais en français, ici, dans le Louis II, il est écrit la nouvelle doctrine. Je vais vous lire le verset ici. Nous avons, je peux commencer au verset 1, acte 9, verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Donc, nous avons même dans la Bible quelqu'un qui est devenu l'apôtre Paul, qui était dans le complot de persécuter ces personnes qui étaient les membres de l'Église du Nouveau Testament. Et c'était des personnes qui étaient connues par cette nouvelle doctrine, cet cheminement, cette nouvelle doctrine, cette chose qui les mettait à part. C'est la vérité qui nous met à part, qui nous sanctifie. C'est ce que Jésus nous décrit également. Donc, nous nous souvenons aussi du jeune riche et de sa question à Jésus. Luc 18, pas besoin de se reporter, mais un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Donc, ce cheminement, ce processus, on vise un but, on vise quand même la vie éternelle, on vise le retour de Jésus-Christ et son jugement sur ceux qui l'attendent. Donc, nous pouvons quand même continuer juste un verset de plus dans cet exemple. Verset 22, Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. » Parce que le jeune avait répété plusieurs commandements. Et il a dit, « J'ai obéi six choses depuis ma jeunesse. » Et voilà. Puis il continue, dit, « Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Donc encore une fois, c'est ce cheminement. Et c'est ça la vie chrétienne, c'est un cheminement dans lequel nous sommes engagés. Ce jeune homme ne s'est pas engagé dans le cheminement. Il n'a pas vendu ses biens, il n'a pas décidé de suivre Jésus-Christ. C'était quand même son erreur, c'était une erreur de sa part. Dans Matthieu 5, Christ mentionne le bienheureux dans les béatitudes, ou les heureux dans les béatitudes. Donc, si nous sommes appelés à changer, à quitter là où nous sommes, c'est un appel des fois qui demande de changements physiques, mais aussi plutôt qui demande des changements spirituels en nous. Donc, pour s'approcher de Dieu, nous avons ce processus de changement de nos priorités, de notre caractère, pour établir, pour inculquer le caractère de Jésus-Christ. Donc, Matthieu 5, les béatitudes, le verset 1, c'est au début de ce sermon sur la montagne, et c'est en premier lieu dans ce sermon parmi ses disciples. Donc, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il lui les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux que ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et donc, nous avons même au verset 9, heureux ceux qui verset 10, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et cette liste implique plusieurs changements dans notre caractère. Mais chacun de ces changements, chacun de ces points, de ces aspects de caractère, nous permet un progrès, un changement dans cette petite partie de notre vie. Et si nous mettons en place ces changements, nous avons la possibilité de constater le changement, de constater un progrès. C'est bien sûr Dieu qui juge, mais nous pouvons quand même constater un bon changement, un progrès, et ça peut nous rendre heureux même dès maintenant, dès aujourd'hui. Donc, si nous apprécions ces petits changements, si nous apprécions, si nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous avoir donné des points très simples, mais très profonds pour notre changement, nous avons quand même la possibilité d'être très, très reconnaissant envers lui. Donc, voilà. Considérons le fait que nous sommes aussi appelés à porter de bons fruits, le fruit de l'esprit. Donc, nous avons Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, la liste qui donne plusieurs aspects du fruit de l'esprit. Quelque chose, encore une fois, qui se développe en nous. Et encore une fois, qui nous donne la possibilité de remercier Dieu pour son appel, pour son instruction et pour la possibilité de changer, de développer, de se préparer pour le royaume à venir. Donc, Galates chapitre 5 et le verset 16, « Je dis donc, écrit Paul, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, la impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc, toute une liste de mauvaises habitudes, de choses à abandonner pour être conduit par l'esprit, comme elle explique ici. Si vous êtes conduit par l'esprit, alors vous n'aurez pas cette liste d'œuvres de la chair et vous n'aurez pas cette pénalité, cette punition d'être sous la punition de la loi. Vous allez changer, vous allez remplacer le mal avec le bien. Et donc le fruit de l'esprit, au verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Donc la loi est contre les choses de la chair, les œuvres de la chair. Et pour ça, il y a une pénalité. Mais la loi n'est pas contre la bienveillance, la foi, la douceur, et ainsi de suite. Donc, nous vivons par l'Esprit. Nous suivons l'exemple de Jésus-Christ et nous avons la force qui nous a préparé, qui nous a donné, la force de l'Esprit-Saint en nous. Donc, il peut vivre en nous par cette force. Il peut nous aider à surmonter le monde, à surmonter nos épreuves. Si nous vivons par l'esprit. Donc, c'est écrit « marchons aussi selon l'esprit ». Encore une fois, ce cheminement vers un but final. Et puis, nous avons plein d'exemples dans le Nouveau Testament de choses à changer pour accomplir ce gros changement que Dieu est en train d'effectuer en nous. Jacques insiste, dans Jacques 2, verset 18, Jacques insiste que la foi est interliée avec les œuvres, que la foi et les œuvres vont bien en train ensemble. Donc, il écrit en Jacques 2, verset 18, « Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Évidemment, il y a beaucoup de personnes, d'après Jacques, qui sont capables de dire « j'ai la foi ». Mais, d'après Jacques, les œuvres de ces personnes ne démontrent pas cette foi. Cette foi est morte si cette foi ne pousse pas la personne à changer, à développer le fruit de l'esprit. Donc, nous avons ça comme deuxième point. Maintenant, le troisième point, gardons le souvenir. N'oublions pas, parce que l'oubli dans la Bible, c'est un thème majeur. C'est quelque chose qui arrive souvent à l'ancien Israël. Considérons Deutéronome chapitre 4. Nous devons éviter à développer cette idée ou ce problème de mémoire. Ce problème de mémoire en ce qui concerne les bénédictions de Dieu. La tendance, c'est de vite oublier les bénédictions lorsqu'on rencontre un problème. Et donc, c'est vite oublié Et nous devons lutter contre cette tendance humaine. Donc, Deutéronome, chapitre 4. Deutéronome, chapitre 4 et le verset 9, pour commencer. « Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour où tu présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Si Dieu s'est révélé à ancien Israël, c'était dans le but de créer des générations et des générations de ceux qui allaient préserver cette loi précieuse, ces ordonnances, ces commandements, ces principes, ces préceptes, tout ce qui est précieux. C'était comme s'il donnait un cadeau, s'il donnait un trésor à ce peuple. Mais est-ce que ce peuple était un peuple oublieux? Verset 23, veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque que l'Éternel ton Dieu t'ait défendu, car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Veillez sur vous afin de ne pas oublier l'alliance, pour dire ça plus simplement. C'était un processus, une vigilance demandée de ne pas oublier. La tendance étant oublier, l'oubli, la tendance à renverser cette tendance, il fallait être très vigilant. Donc, continuons avec le chapitre 25 maintenant. Deutéronome 25 et le verset 9. Alors, le Deutéronome, oui, c'est juste le verset 25 que je voulais lire au chapitre 4. Donc, Deutéronome 4 et le verset 25. Pardon, le verset 25. Au chapitre 4, « Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. » Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. Donc, un renversement des promesses s'il n'y a pas d'obéissance, s'il y a un oubli, s'il y a l'oubli total, le 180 degrés. De ce que l'Éternel souhaitait pour Israël. Donc, c'est pour ça qu'il est en train de donner ses instructions à Moïse afin que ses instructions soient de bons rappels pour des générations dans l'avenir. Considérons maintenant le psaume 119. Le psaume 119, en parlant de l'oubli et l'idée de préserver la mémoire, de se rappeler de l'Éternel tout le temps, de ne jamais oublier ce qu'il fait pour nous. Psaume 119 et le verset 92. Psaume 119, verset 92. Si ta loi n'avait fait mes délices, j'aurais alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. je suis à toi, sauve-moi. Donc, car je recherche tes ordonnances. Donc, dans cette progression, cette vigilance, il y a toujours une recherche dans chaque situation, dans chaque moment. On cherche à faire la volonté de Dieu, de faire comme Dieu nous a instruit. Donc, c'est ça. Si on apprécie le simple des choses, nous allons garder le souvenir de ce qui s'est passé, de sa loi, de ses ordonnances, et nous allons pouvoir apprécier encore plus ces choses. Nous allons pouvoir remercier Dieu de nous avoir donné ces choses, de nous avoir informé de sa vérité. Les Israélites étaient connus pour avoir cet oubli, pour oublier souvent et avec beaucoup de facultés, beaucoup de facilité. Donc, une partie de l'oubli, c'est comment louer l'Éternel. Ils ont même oublié les prescriptions sur comment louer l'Éternel. Et ces choses sont vite oubliées lorsque l'influence du monde, l'influence du monde autour est trop élevée. Considérant 2 Timothée 1, un exemple du Nouveau Testament, 2 Timothée chapitre 1, et bien sûr, Paul ne voulait pas que Timothée soit dans l'oubli de toutes les instructions qu'il a données. Il préparait Timothée pour un ministère. Donc, 2 Timothée chapitre 1 et le verset 13, Paul écrit à Timothée, « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui est en nous, qui habite en nous. » Donc, nous avons cette idée de retenir, de garder, de protéger même dans la foi le modèle des saines paroles que dans ce cas, Timothée a reçu de l'instruction de l'apôtre Paul. Considérons maintenant le chapitre 3 de Timothée 3. Encore une fois, Paul ne veut pas que Timothée soit dans l'oubli. Donc, le verset 12, chapitre 3, verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Donc, c'est comme si on commence à s'écarter et cet écartement entraîne d'autres. Puis, il continue, « Toi, donc dans une sorte de contraste, toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Donc, depuis son enfance, il connaît, donc il veut, Paul voudrait que Timothée continue dans cette vérité. Et c'est bien le verset suivant, c'est un verset qui est vraiment très beau pour décrire l'Écriture, la Sainte Écriture, la parole de Dieu. Donc, un quatrième principe dans cet aspect de rester reconnaissant envers Dieu, c'est de toujours chanter des louanges. Nous pouvons chanter des louanges, chanter les psaumes, chanter les hymnes, les cantiques, dans le livre des cantiques également. David était un homme selon le cœur de Dieu. Il a écrit la plupart des psaumes et beaucoup parlent de son appréciation du pouvoir, de la puissance de Dieu et de toutes les choses que Dieu nous donne. Donc, de quelle sorte de choses David est-il reconnaissant dans les psaumes? Considérons le psaume 8, pour commencer, je vous donne quelques exemples. Parce que si nous allons chanter les psaumes, il faut qu'on ait une certaine prise de conscience du fait que dans les psaumes, nous avons des fois des prières modèles aussi, des prières qui sont des prières de David, et nous pouvons, entre guillemets, les traduire en notre vie aussi pour regarder, pour considérer la réponse de David à certaines choses qui se sont passées, et nous pouvons les traduire dans notre vie aussi, dans nos vies, pour que nous aussi, nous puissions chanter les louanges de l'Éternel. Donc, nous pouvons chanter des louanges à l'Éternel par rapport à sa puissance. Sa puissance de créer l'univers et de créer un plan pour l'humanité. Le psaume 8 est adressé au chef des chants sur le guitant. Et donc, que ton nom, verset 2, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Et donc, nous avons dans ce psaume une appréciation de la création divine et du plan de Dieu. Donc, au chant psaume 9, nous avons un psaume ici qui apprécie, qui souligne l'appréciation, la joie de David dans ce qui concerne les ennemis. Il dit au verset 4, « Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. » Donc, il faut comprendre que c'est quelque chose que David et d'autres ont chanté. Ce psaume, ils ont chanté. Ils ont reconnu avec leur louange, avec leur voix, ils ont reconnu ce que l'Éternel a fait dans leur vie. Psaume 22, nous avons un exemple ici. Psaume 22 et le verset 23. Psaume 22, verset 23, « Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. » Et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Et puis verset 26, « Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. » Donc, encore un exemple de comment nous pouvons louer l'Éternel, même à l'assemblée sabbatique, nous chantons ses louanges. Donc, nous chantons, nous apprécions ces bénédictions. Un cinquième point, c'est de remplacer le mal par le bien. C'est une étape que je crois nous avons tous pris, mais ça vaut la peine d'avoir un petit rappel, parce que c'est quelque chose qui est mentionné quand même dans la Bible. C'est un endroit où une pratique, une habitude que nous devrions nous sommes censés de laisser derrière nous. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? Nous sommes conscients que le mal empêche notre développement spirituel, et c'est la même chose dans le cadre de l'appréciation ou dans la reconnaissance envers Dieu. Mais est-ce que c'est mal d'être ingrat? D'après 2 Timothée chapitre 3 et le verset 2, où Paul écrit: car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Donc, c'est un avertissement, Timothée, contre le monde qui l'entoure et les hommes et les tendances des hommes. Donc, parmi ces mauvaises tendances, mentionnées juste à côté de hautain, égoïsme et tout ça, il y a l'ingrat aussi. Donc le mal ici, je veux dire, je souligne le mal en tant que l'ingrat. Luc chapitre 6 et le verset 35, « Mais aimez vos ennemis, Jésus dit, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » il accepte, il appelle nous quand on est encore dans cet état spirituel, et puis c'est à nous de changer. Dieu nous donne la possibilité de remplacer le mal avec le bien. Je vais vous donner une sorte de processus, c'est de transformer le mal en bien, c'est de transformer les désirs, peut-être, quelque chose qu'on désire, en remerciement. Comment faire ça? Comment transformer un désir ou un manque d'appréciation en quelque chose de bien? D'abord, nous pouvons remarquer ce que nous voulons. C'est facile, nous sommes programmés de faire ça. Nous pouvons remarquer ce que nous voulons. Après, quand on voit que nous sommes en train de réfléchir beaucoup à quelque chose que nous voulons, qui est peut-être, c'est peut-être pas quelque chose que nous méritons ou quelque chose que qui serait bien pour nous. Mais si on fait une pause, c'est possible de méditer sur ce que nous possédons déjà, au lieu de toujours penser à nos aspirations pour avoir plus, comme le monde voudrait nous programmer avec la publicité, avec tout. Nous avons une sorte de programmation maintenant de toujours chercher à avoir plus. Donc, au lieu de penser toujours à quelque chose qu'on n'a pas, nous pouvons rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons. Et puis, nous pouvons demander à Dieu de nous montrer si ce que nous voudrions, nous avons besoin de ces choses. Est-ce que notre prière peut ressembler, est-ce que j'ai besoin de cette chose? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est quelque chose que je désire, mais est-ce que c'est quelque chose qui est d'après ta volonté? Donc, nous avons une autre étape, un autre point avant la fin. Donc, un sixième point ici, c'est d'apprécier les autres, appréciation des autres. Les bonnes relations sont fondées sur l'appréciation, le respect, la valorisation de l'autrui. Même dans les relations, nous devons nous efforcer d'être reconnaissants les uns envers les autres. Personne d'autre que Christ n'est parfait. Donc, nous devons aussi accepter que d'autres risquent d'avoir des défauts, des défauts ou des fautes, mais en même temps de valoriser le bien chez les autres. Parce que finalement, nous allons toujours trouver, presque toujours, un défaut quelque part chez les autres. Donc, dans nos relations, en particulier entre nous et nos proches, nous avons besoin de chercher le bien. Nous avons besoin d'être reconnaissants pour tous, pour valoriser ce qui est bon. Cela s'applique aussi aux relations que nous avons dans l'Église. Celles-ci sont différentes des relations familiales. Même si nous nous appelons frères et sœurs en Christ, nous avons des relations très particulières dans l'Église. Donc, dans Éphésiens 4, nous avons l'idée que l'Église est une structure, c'est quelque chose qui existe comme un corps, un ensemble. Et Paul voulait montrer les nombreuses relations qui ont besoin d'être entretenues pour avoir une église saine dans Éphésiens 4 et 5. Donc, il y a beaucoup de relations différentes, de différents types de relations qui existent Et chaque type de relation, chaque relation dans l'Église a besoin de ses propres, de son entretien. Et donc, une partie de ce processus consiste à valoriser ou valoriser l'autre, d'être reconnaissant envers l'autre. Il ne faut pas, comme Jacques nous avertit dans Jacques 2, il ne faut pas développer le favoritisme et d'abandonner certaines relations parce que nous avons un favoritisme envers quelqu'un d'autre. Donc, nous avons ce rappel dans Jacques chapitre 2, versets 1 à 4. Et un point final, c'est considérons comment nous nous voyons. Quelle est notre image de soi? Si nous nous considérons comme des petits moutons, nous reconnaissons que nous avons aussi, nous avons parlé de certaines faiblesses chez les autres, mais nous allons reconnaître que nous avons également des faiblesses, des choses qui doivent changer. Et nous ne sommes pas égoïstes dans cette perspective. Si nous nous considérons avec une perspective d'humilité. Considérons Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Paul commence ce chapitre avec une exhortation vraiment forte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et donc, on peut se dire que Paul ne demande pas grand-chose, mais il demande juste une chose, c'est notre corps entier, c'est notre vie entière d'être un sacrifice agréable à Dieu. Donc, dans un sens, c'est simple, mais dans un autre sens, c'est très profond ce qu'il demande. Et donc, si nous nous considérons comme des serviteurs de Dieu, nous allons plus facilement apprécier ce que lui, il nous a préparé. Ce que nous avons à faire, c'est comme un plaisir de donner à Dieu. Parce qu'il dit même ici que c'est un culte raisonnable. C'est raisonnable de tout donner. Mais ce qui est important après, au verset 2, c'est de ne pas se conformer au siècle présent. Ça veut dire au monde. Mais d'être transformé. Donc, nous cherchons une transformation complète. Et donc, si nous nous considérons comme parfaits déjà, nous nous trompons. C'est Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, c'est que nous poursuivons ce renouvellement, comme Paul explique ici. Et nous avons besoin de changer, d'être perfectionnés. Et donc, voilà un point très important pour notre perspective sur comment rester reconnaissant. C'est comment nous allons nous considérer. Hébreux chapitre 3, ceux qui font partie du chapitre de la foi dans Hébreux 11, ils avaient cette perspective. Ils avaient une perspective que eux-mêmes, leur vie, dépendait de la volonté de Dieu. Et ils ont décidé, dans la foi, d'obéir à Dieu au lieu d'obéir aux hommes. Donc, ils ont démontré leur foi. Donc, Hébreux 3, c'est pas le chapitre de la foi, mais c'est quand même une personne qui est mentionné plus tard dans le chapitre de la foi, c'est Moïse qui est mentionné, un serviteur de Dieu. Hébreux chapitre 3 et le verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc, nous ne nous glorifions pas en nous-mêmes, mais dans cette espérance, dans ses promesses, les promesses de Dieu. Tout comme Moïse était un fidèle serviteur, nous pouvons également répondre à l'appel de Dieu d'être de fidèles serviteurs également. Donc, en conclusion, tous ces points peuvent nous aider à développer la reconnaissance pour de toutes simples bénédictions. Des bénédictions qui sont simples, mais aussi profondes. Cependant, Dieu nous a également donné de grandes bénédictions également, qui ne sont pas vraiment simples. Il nous donne des choses incroyables et miraculeuses. Donc, nous sommes capables également facilement de reconnaître les miracles dans nos vies, de reconnaître l'intervention de Dieu dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent, ceux qui sont nos proches, ceux qui sont les membres de l'Église qui nous entourent également. Et donc, l'idée, c'est d'apprécier les cadeaux ou les dons très simples pour avoir une meilleure perspective sur le fait que c'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui nous a donné la vie et c'est à nous de tout donner à lui.